Alors j'aime autant vous le dire tout de suite, histoire que ce soit vraiment clair entre nous. Je n'aime pas, mais alors pas du tout, les méthodes agiles. Ceci étant dit, vous avez vraiment raison d'être ici.
Bonsoir. Sans plus attendre, je vous propose de regarder votre film consacré à la méthode agile, Le fabuleux destin de Team Member.
C'est moi, ça. Enfin, plutôt lui, Team Member. Oui, Team, moi, il va falloir vous y habituer. On est un peu schizophrène avec Team, tous les trois. Je suis né à la Combe de Lincey, dans le Colorado. Oui, les Américains qui manquent d'imagination aiment reprendre le nom des grandes métropoles françaises. On a coutume de dire que les premiers pas dans la vie nous façonnent. Pour moi, c'est les années 70, acmé de l'insouciance et du bon goût. J'attire tout particulièrement votre attention sur le petit personnage à droite du cliché. Voyez voir. Oui, je sais ce que vous pensez là. Je montre de précoces dispositions pour les postures agiles, ainsi qu'un penchant déjà très affirmé pour l'improbable. Dès mon plus jeune âge, je fais de l'informatique une passion. Par chance, nous possédons un ordinateur personnel dans le salon familial sur lequel je m'initie aux arcanes de la programmatique.
Alors les jeunes, on taquine le computer ?
Oui. Avec mon frère Tim derrière moi, on s'entraîne pour être programmiste plus tard. Nous croyons beaucoup au paradigme du polymorphisme dans la programmation orientée objet. Notamment par le sous-typage qui induit le principe de substitution de Liskov. Pas vrai, Tim ?
Oh, je me suis forgé une image du travail comme un lieu épanouissant et vivant, où les collègues fraternisent et s'entraident sur des tâches passionnantes, puis se retrouvent chaque midi pour partager un céleri rémoulade dans la convivialité du restaurant d'entreprise.
D'entreprise au service du salariat.
Aussi, lorsque je rejoins la prestigieuse société Infobloc comme analyste en progiciel télématique, j'ai tout de suite l'impression d'accomplir mon rêve, de pénétrer dans le sein des seins de la haute technologie. Et du reste, il faut reconnaître que je suis plutôt bien accueilli. Le protocole d'intégration des nouveaux collaborateurs est une mécanique bien rodée.
Bienvenue parmi nous, Tim. Je m'appelle Bob.
Merci.
Et voici ta bécane. Comme tu peux voir, c'est le dernier cri de la technologie. Ici, un écran cathodique ultra fin. Et là, un lecteur de bande magnétique haute capacité.
Oh, c'est cool, ça.
Pour te connecter à l'ordinateur central, tu as un mot de passe personnel. Pour le moment, c'est Grenoble 123. Mais tu devras impérativement le changer.
Bon, je mets toujours Tim.
À ce stade de l'histoire, toutes les conditions sont réunies pour que je mène une existence merveilleuse. Malheureusement, l'état de grâce s'estompe rapidement. Je découvre vite que le monde du travail ressemble plutôt à ça. Ça, c'est un monde d'une dureté non pareille, où l'individualisme prime, un monde dans lequel l'absence de management engendre une pression inhumaine, un concasseur de vie dont les mâchoires d'acier me broient inexorablement à coups de petites phrases cinglantes.
Mais qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est que ce code ? Mais c'est de la merde !
Alors arrive ce qui doit. Tout d'abord un désenchantement, à la mesure des espoirs que j'ai nourris, puis une souffrance quotidienne, de plus en plus forte, jusqu'à la rupture, brutale, nette, psychologique d'abord, puis contractuelle, fatalement.
Salut Gilbert, tu m'as demandé de passer ?
Bonjour chef, oui, regardez ce bug ici, il est vraiment affreux.
Ouh là là, mais qui en est l'auteur ?
C'est Team Member, chef. Et c'est pas tout, regardez, je vous ai imprimé le log de ses connexions internet.
Mais je ne comprends rien, ce sont des chiffres pour moi tout ça. Expliquez-moi Gilbert.
Ça veut dire qu'il passe son temps à regarder des vidéos bizarres sur YouTube.
Nous avons l'impression que vous menez une double vie, Monsieur Member. Dans l'une de ces vies, vous êtes un collaborateur attachant mais naïf. Dans l'autre, vous êtes un analyste programmeur absolument calamiteux. Aucune de ces vies n'a un avenir chez Infobloc. Adieu.
Comment mon rêve a-t-il si brutalement viré au cauchemar ? Je suis anéanti. Est-ce vraiment cela ? Le monde du travail ? J'ai beaucoup de questions, mais aucune réponse. Alors, je commence à boire, à traîner dans les bars, en m'étouffler dans mon cafard, jusqu'à ce soir d'ivresse où je fais une bien étrange rencontre.
Bonsoir Tim. Oh, tu sais, je m'y connais, je sais repérer quelqu'un qui ne va pas bien.
Oh, mais tu as raison, je suis au bout du rouleau. Le monde du travail est si triste.
Si tu veux être heureux, tu dois prendre ta vie en main et te changer toi-même et changer le monde pour le rendre meilleur.
Oh, t'en as de bonnes, comment faire ? J'en sais rien, moi.
Tu dois devenir agile, Tim. Cherche l'agiliste au cœur de toi-même. Et maintenant, tu vas chanter avec moi, Tim, pour me faire plaisir.
On regarde ta montre, il est déjà 8 heures.
C'est bientôt l'heure du stand-up.
Un taxi t'emporte.
Tu files au bureau pour mettre à jour le tableau.
C'est une journée idéale.
Pour lancer quelques testus,
on trouverait plus normal
de mater un film de Jean-Pierre
Jeunet.
Allez, le lundi au soleil, oh quand, c'est une chose qu'on n'aura jamais. Chaque fois c'est pareil.
C'est quand on est derrière les carreaux.
Ah, je me sens requinqué, que dis-je, électrisé par cet échange. Grâce à Claude, Je sais qu'un monde meilleur est possible et que je peux jouer un rôle pour le bâtir. Mais par-dessus tout, j'ai à présent une quête. Je vais devenir agile. Oh, les mots de Claude repassent en boucle dans mon esprit. Tu dois te changer toi-même et changer le monde pour le rendre meilleur. Pourquoi dans cet ordre ? Comme si, en opérant sur moi, j'allais agir sur le monde. Je ne sais pas pour vous, hein, mais alors pour ce qui me concerne, ceci m'a tout l'air d'une coquette énigme. Cependant, je suis sûr que le chanteur a laissé des indices pour me guider. Par exemple, ces anciennes arcades au second plan. On dirait les ruines d'une civilisation disparue. Est-ce une invitation à fouiller du côté de l'Antiquité ? Eh bien, je les ai cherchées et trouvées. C'est le temple d'Apollon à Delphes, au fronton duquel était buriné le précepte « Gnoti Seoton ». Connais-toi toi-même. Bon sang, mais c'est bien sûr ! Tout s'éclaire ! C'est sous les auspices de la philosophie que débute ma quête de l'agilité. Tout artisan doit commencer par maîtriser ses outils. Pour le philosophe, l'outil, c'est lui-même, sa pensée. S'interroger soi-même afin d'affûter son esprit est une bonne façon d'aborder tout problème. La connaissance, nous dit Socrate, est immanente. La richesse est en chaque être humain. Tout le monde sait dès lors qu'il se donne la peine de plonger en lui avec humilité. En fait, pour être complètement transparent avec vous, la pratique de l'introspection est même un devoir. La science aujourd'hui est malade. Elle est victime de son hyperspécialisation et de l'obscurantisme. Oui, je sais, le mot est un peu fort, mais j'ai envie de vous choquer là. Qui en découle. Contrairement à l'époque de Pythagore ou à celle de Pascal, le physicien nucléaire aujourd'hui ne pratique plus la philosophie. Le programmeur en intelligence artificielle ne discute plus désormais avec le sociologue. La pensée scientifique n'a plus les moyens de se penser elle-même. Construire une conscience de l'agilité est donc notre exigence morale. Et n'allez pas croire qu'il suffise d'un claquement de doigts. Le travail philosophique requiert du temps et de l'assiduité. La maîtrise se fait jour au fil d'un long parcours, jalonné de dépouillements, de doutes, de transformation permanente, jusqu'à devenir intime, intime avec soi. À ce prix seulement, la rencontre avec l'autre peut avoir lieu et devenir féconde. J'ai compris que pour être un bon informaticien, il faut être un peu philosophe. Fort de ses premiers progrès et suivant le plan tracé par Claude, je vais maintenant rassembler une équipe d'agilistes afin d'apprendre leurs secrets. J'ai sillonné tout l'Empire romain pour en trouver, des cimes apennines jusqu'au tréfonds, là, vous savez, le fond des fonds, les catacombes.
Ah oui, ça. Bonsoir, mes petits chats.
Bonsoir, maman.
Bonsoir. Soyez prudents.
Mais bonsoir, je cherche des agilistes qui se réunissent, mais c'est un peu secret, quoi.
Non. Mais qu'est-ce que t'as, mon petit chat ? T'es timide ?
On est en combo, fier de nos, de leurs couteaux, mais de nos os. Viens dans notre peau, dans les homosexuels.
Bonsoir !
Salut ! Ils sont tous agilistes ?
Pardon ?
C'est tous des agilistes ?
Pas compris !
Viens dans notre peau.
Ils en sont tous ?
Évidemment !
Ah ! Et toi aussi, t'es agile ? T'en es aussi ?
Bah oui, ça se voit pas ?
Bah non.
On va aller là-bas, on n'entend rien. Oui. Tu veux ?
Oh, cette première rencontre avec des agilistes a été prolifique. Et alors, je peux vous dire que ce sont des actifs. Hein. Eh oui, agilité dérive du latin « aguerrer », qui veut dire « faire »,« agir ». L'agilité est donc une exhortation à l'action, immédiate, concrète. Rappelez-vous l'enseignement du Marshmallow Challenge. Faire, manipuler, tout de suite. En grec, l'idée de l'action, c'est la praxis. Mais l'action accomplie, le fait qui en résulte, c'est la pragma. L'agiliste est donc un pragmatique qui se nourrit de la pratique et se place d'emblée dans la réalité. Précisément, fonder sa connaissance sur l'observation du réel s'appelle l'empirisme. La démarche agile est empirique, en cela qu'elle prône la confrontation factuelle au problème, vous savez, le rendre visible, le rapprochement analogique pour résoudre des situations. Ce qui se ressemble doit pouvoir se régler pareillement. Le refus de s'enfermer dans tout a priori dogmatique pour apprendre par sa seule pratique. C'est en forgeant qu'on devient fort gentil. Grâce à mes collègues des catacombes, j'ai appris l'importance de l'action, du rapport pragmatique au réel. J'ai découvert la première source de l'agilité, l'empirisme. Mais n'allons pas nous arrêter en si bon chemin. Acquérir de l'expérience au fil du temps, en apprenant du résultat de ses actions, eh bien, vous n'allez pas me croire, mais il y a une science rien que pour cela. La cybernétique.
Identify yourself. Robot model B9, designed and computerized as a mechanized electronic aid for Earth voyagers engaged in astral expeditions.
What are you?
I am a robot of the class M3, programmed to provide information and support to all Jupiter personnel.
We are all corrosive resistant and self-oiling.
La cybernétique. C'est le mathématicien Norbert Wiener qui pose les premiers jalons en 1948 dans son ouvrage Cybernetics or Control and Communication in the Animal and the Robot. Vous le sentez là, l'accent de la Combe de Lancet ? Alors, pour simplifier au maximum, la cybernétique, c'est la science du contrôle en général, des systèmes en particulier. Le mot vient du grec « kubernao », qui signifie « piloter un bateau » et par extension « gouverner », celui qui tient le gouvernail. L'intuition géniale de Wiener, c'est de tracer une boucle de rétroaction qui relie la sortie d'un système à son entrée, créant ainsi une communication dans les deux sens. En fonction de l'effet observé en sortie, on peut remonter une information au facteur d'entrée et opérer ainsi une action corrective, la régulation. Cette action corrective peut accentuer l'effet. On parle alors de régulation positive ou en tendance. Ou bien au contraire, chercher à l'atténuer, auquel cas on parle de régulation négative ou en constance. C'est simple, non ? Encore faut-il s'entendre sur ce qu'est un système. Eh bien, selon Karl Ludwig von Bertalanffy, biologiste autrichien, fondateur de la théorie systémique, pour ceux qui connaissent, eh bien tout. Tout est système. Il y a des systèmes partout. Plus précisément, il y a système dès lors que plusieurs éléments sont en interaction dynamique. Un très bon exemple de système est le corps humain. La capacité incroyable de notre organisme à maintenir son équilibre physiologique malgré toutes les agressions extérieures se modélise très bien à l'aide des rétroactions cybernétiques. C'est ce que l'on appelle l'homéostasie. De la même façon, une équipe agile constitue un système. Il est intéressant de noter que cette notion de système dont je vous parle n'est ni vraiment réelle ni totalement conceptuelle. En fait, on est face à une entité fantôme, englobante, un petit peu comme la particule élémentaire, vous savez, à la fois onde et corpuscule. D'ailleurs, nous devrions plutôt considérer une structure de système imbriquée les uns dans les autres. Le système équipe est constitutif du système organisation, qui est lui-même partie intégrante du système société, etc. Enfin bon, c'est une parenthèse, on aura l'occasion d'y revenir plus tard. Puisque l'équipe est un système, on peut lui appliquer le principe cybernétique de rétroaction. Vous connaissez certainement ce schéma qui explicite les différentes boucles de rétroaction dans la méthode Extreme Programming. Eh bien, ce sont des exemples de rétroaction cybernétique appliquée au système équipe. On peut également faire référence à certaines cérémonies Scrum, comme par exemple la démo, qui est, je vous le rappelle, le moment où l'on célèbre les victoires.
Eh bien, figurez-vous que ce jeune homme, Team Member, a une drôle d'idée pour l'entreprise. Il propose de célébrer les victoires. Qu'entendez-vous par là ?
Oui, tout à fait. Mais enfin, vous savez, ce que je propose est très simple. En somme toute, ça commence par la revue de sprint.
Ça ressemble à quoi, une démo ?
Et maintenant, notre nouvelle collection. Voici portée par Émile, le nouveau téléphone Ken couleur 66 cm, tube haute brillante. Et pour suivre, Marcel, avec notre grand classique. Merci Marcel. Ah, le 56 cm, robuste, infatigable, on peut compter dessus. Oh, Danol. Quel brio ce portable couleur.
Ceux qui ont vécu des démos comprendront. Est généralement associé à la boucle de rétroaction un organe de mémoire qui s'enrichit au fil du temps en conservant l'historique du fonctionnement du système. En confrontant l'information de la rétroaction à cette mémoire, on active la fonction apprentissage qui permet au système de ne pas reproduire deux fois les mêmes erreurs. En cybernétique, l'échec est donc le carburant indispensable de l'apprentissage, en cela qu'il alimente la mémoire du système. Eh bien, en agilité, plus une équipe se trompe et plus elle a de chances d'atteindre son objectif. Cette dynamique itérative de l'apprentissage est modélisée dans le cycle de Schuhart, planifier, développer, contrôler, ajuster. On trouve aussi Ruth Deming, bien que Edwards Deming ait toujours récusé cette dénomination. La combinaison de boucles de rétroaction et d'une mémoire associée au système équipe permet donc l'amélioration continue, le Kaizen. La paternité entre la cybernétique et l'agilité est donc manifeste. Ah tiens, oh, manifeste, oh qu'il est joli ce mot, manifeste. Alors nous avons d'une part l'empirisme et d'autre part la cybernétique, mais nous disposons de toutes les pièces pour le signer, le nôtre, de manifeste. J'en profite pour rendre hommage à l'inénarrable et néanmoins adorable docteur Alistair Coburn, qui est venu sur plusieurs conférences présenter en français et brillamment ce qu'il appelle The Heart of Agile. Si vous ne l'avez pas déjà vu, je vous recommande vivement d'aller regarder la vidéo qui a été tournée à Rennes chez l'intrépide agiliste volant Aurélien. Bon, on a fini ? Non ? Bon, allez, on n'aurait qu'à dire que c'était une plaisanterie. Vous pensiez vraiment qu'en posant l'équipe comme un système cybernétique, vous pourriez comprendre toute l'agilité ? Allez, allons mes petits philosophes, accrochez-vous. Il reste encore une porte à franchir. Quand on essaye de théoriser le fonctionnement d'une équipe, ou même de n'importe quel groupe humain en général, à l'aide des outils biologiques, mathématiques, physiques, ou de n'importe quelle autre discipline en IC à disponibilité, on se heurte, tôt ou tard, aux limites des schémas classiques de pensée. Premièrement, la tentation simplificatrice, qui vise à résoudre chaque problème à un seul élément cause, isolé du tout, est une grave erreur. Dans l'équipe, le problème c'est Tim. Deuxièmement, les facteurs manipulés ne se résolvent pas à un simple état binaire, manichéen, bon ou mauvais. Ils sont généralement les deux à la fois, en fonction du point de vue, des circonstances. Les frameworks, c'est commode, mais c'est lourd. L'IA, c'est génial, mais flippant. Troisièmement, l'observateur est lui-même partie intégrante du système avec lequel il interagit. C'est le paradigme de la boîte de Schrödinger. Pire encore, je vous rappelle la deuxième loi de la thermodynamique. L'entropie, le désordre, le chaos d'un système isolé augmente inexorablement dans le temps parce qu'il n'existe pas d'échange thermique avec le milieu extérieur. Donc, si l'équipe agile est un système isolé, elle est condamnée à exploser rapidement. Boum! La vérité est donc bien plus complexe, du latin complexus, ce qui est tissé ensemble. Face à cette complexité du réel, rappelez-vous, la pragma, nous devons faire le deuil de le comprendre pour entrer dans une logique de négociation avec lui. Il n'existe pas de fil apparent sur lequel tirer là pour démêler la pelote. C'est le paradoxe du un multiple, distinct mais inséparable. Petit détour par la position du Wiktionnaire. Le mathématicien John von Neumann définit la complexité comme un phénomène d'incertitude, quantitatif donc, lié au très grand nombre d'éléments et d'interactions au sein d'un système richement organisé. Puisque la science devient complexe, la pensée doit se transformer pour le devenir également. Le sociologue Edgar Morin pose en 1982 les bases de ce qu'il appelle la pensée complexe, destinée à répondre à cette question : comment aborder la complexité de façon non simplifiante ? Et pour cela, il développe trois grands principes structurant la pensée complexe. Premièrement, le principe dialogique, qui nous invite à accepter la dualité permanente, la contradiction féconde, la complémentarité des antagonismes. Ordre et désordre n'existent pas l'un sans l'autre et sont indissociables. La pensée complexe ouvre ainsi l'idée d'un chaos organisateur, une sorte de mélange hybride et inextricable que Morin appelle le chaosmos. Ah. Le principe récursif pose un lien de cause à effet non plus linéaire, à sens unique, mais réciproque et cyclique. Nous sommes tous à la fois des produits et des producteurs, des causes et des effets, des clients et des fournisseurs. Tout ce que nous transforme en retour. Moi, vous, l'équipe, l'entreprise, même l'agilité. Quelque chose qu'il faut avoir en tête avant de démarrer toute transformation agile. Ce que nous libérons nous revient comme un boomerang. Enfin, le principe hologrammatique que j'avais développé dans La créature agile du docteur Frankenstein. Non seulement la partie est dans le tout, mais le tout se retrouve dans la partie. Le tout s'enrichit des parties qui s'enrichissent du tout. Le tout est finalement un peu plus que la somme de ses parties. Ainsi, la pensée complexe nous permet d'aborder toute la complexité du fonctionnement d'une équipe agile de façon non simplifiante, bien au-delà du champ de la cybernétique. Vous aurez compris, en filigrane de mon propos, que j'ai voyagé. D'ailleurs, qu'est-ce qu'un filigrane ? Un sens caché derrière le voile d'un texte, dissimulé non par malice, mais parce que le fruit d'une expérience incommunicable. Car le voyage de Tim est sans aucun doute géographique, mais aussi intérieur. Et qui mieux que le conteur sait créer les conditions du voyage intérieur ? Celui-ci a pour nom Farid al-Dinattar, philosophe et poète persan, auteur de nombreux textes allégoriques dont le récit inspirant Manticatair, la conférence des oiseaux. Alors pour ceux qui sont convaincus que l'agilité est une émanation du XXIe siècle, vous pouvez fermer les yeux si vous voulez. Mais je vous en prie, ouvrez grand les lucarnes de votre cœur. C'était il y a très longtemps. À une époque où l'on disait des hommes qu'ils étaient agiles et des agilistes qu'ils étaient des oiseaux. Ainsi vint un jour où tous les oiseaux du monde se réunirent en une grande conférence, debout. La huppe, qui était la gardienne des rituels, arriva et se plaça au milieu d'eux. Mes chers oiseaux, je passe des jours dans l'anxiété. Je ne vois parmi nous que doutes et conflits pour un lopin de terre mal estimé, pour quelques grains de blé mal triés. Cet état de choses ne peut pas durer. Pendant des années, j'ai traversé le ciel et la terre. J'ai vu le peuple des cascades et je sais beaucoup de secrets. Écoutez-moi, nous avons besoin d'un roi. Il nous faut partir à sa recherche, sinon nous sommes perdus. Alors les oiseaux s'indignèrent. Un roi ? Qu'avons-nous besoin d'un roi ? Oiseau négligent, attendez. Celui dont je parle est notre roi légitime. Il sait tracer les plans du monde sur le parchemin. Il ordonne au temps et distribue à chacun son labeur quotidien. Son nom est Simorgue. Le chemin pour parvenir jusqu'à lui est inconnu et périlleux. Il y a 7 vallées à franchir et 7 secrets à découvrir. Toute seule, je ne peux pas. Pour échapper au voyage, les oiseaux trouvèrent 1000 excuses. Et pour les convaincre de partir, la huppe leur raconta 1000 histoires. Mais leur crainte était souvent la plus forte. Ainsi la frêle perruche. Des méchants m'ont enfermé dans une cage de fer, toute mignonne que je suis. Moi qui voudrais tant m'élever jusqu'à l'aile du Simorgue, je ne peux pas. La huppe ouvrit la porte de la cage. La perruche sortit et découvrit la liberté. Elle chanta un instant. Puis elle rencontra le paon, prit peur et rentra dans sa cage. On me nourrit de sucre dès le matin. Je porte un collier d'or. Ma cage me suffit. J'aime ma cage. Ce à quoi la perruche répondit par « Je veux rester ici. Je suis bien. » La huppe s'indigna. « Mais tu ne sais rien du bonheur. Tu n'as pas l'amande. » Tu n'as que l'écorce de l'amande. L'amour aime les choses difficiles. Il met le feu à toute espèce de moisson. N'hésitez pas, en route. Au départ, ils étaient des centaines de milliers d'oiseaux. Mais beaucoup s'arrêtaient au bord du chemin. Certains partaient secrètement pendant la nuit. Dans la vallée de la recherche, apparut un homme qui, tout en chantant, passait obstinément le sable du désert dans un tamis. Les oiseaux l'observèrent avec curiosité. Que cherches-tu ? Je cherche mon chemin. Et tu espères le trouver en le cherchant ainsi ? Je le cherche partout, si je veux un jour le trouver quelque part. Dans la vallée de la connaissance, on entendit brusquement des sanglots, et les oiseaux virent apparaître un homme qui pleurait et retirait quelque chose de ses yeux. La colombe l'interpella. « Que retires-tu de tes yeux ?»« J'en retire mes larmes, une à une. »« Et tu les gardes ?»« Bien sûr. »« Ne vois-tu pas qu'elles deviennent des pierres ?»« Des pierres brillantes et précieuses. » Il exhiba une larme entre deux doigts. La colombe semblait fascinée. « J'en ai toute une collection, regarde. »« Toutes mes larmes sont ici. » Tu en veux une ? Choisis, prends. Ça m'est très facile d'en avoir d'autres. À ce moment, la huppe dit avec force à la colombe : Allons, colombe, en avant ! Que rien ne t'arrête. Si une chose t'arrête, elle devient ton idole. Ils voyagèrent des années durant. Beaucoup renoncèrent. Certains s'arrêtèrent, stupéfaits par les phénomènes de la route. D'autres oublièrent l'objet de leur recherche et se perdirent. Quelques-uns seulement parvinrent au but. Abattus, vieillis, ceux qui avaient persévéré malgré les obstacles, avec humilité et courage. Apparut à ce moment-là un chambellan. D'où venez-vous, les oiseaux ? Nous venons de loin. Et dans quel but ? Pour voir le Simorgue, notre roi. Je vais vous conduire auprès du Simorgue. Suivez-moi. Alors ils rassemblèrent leurs dernières forces et se levèrent. Ils prirent chacun un bâton. Ils suivirent les mouvements du chambellan. On leur ouvrit la porte. On leur ouvrit encore sans rideau. La plus vive lumière brilla. Ils purent enfin contempler le Simorgue. Et ils virent que le Simorgue, c'était eux-mêmes. Ils ne formaient en réalité qu'un seul être. Au terme du voyage, le roi, le Simorgue, c'est vous-même.
Chers téléspectateurs, votre programme de la soirée, Le fabuleux destin de Team Member, va reprendre très bientôt. Mais en attendant, je vous propose, attendez... Ah oui, une page de réclame, parce que je suis bête. Mais ça va vraiment être chouette.
Balzac 0001. Joe Mineur, publicité, 79 Champs-Élysées, Paris.
On avance la nuit. On fait du code, on fait des commits, on bouge des post-it. En espadrille, on va au stand-up. En espadrille, en espadrille, on a rendez-vous chez le client. En espadrille, la 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 la, la 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 la.
C'était un communiqué de la communauté des agilistes en espadrille.
Alors, que conclure de tout ça ? Selon la réciproque de la deuxième loi de la thermodynamique, l'équipe agile est un système ouvert qui, d'une part, préserve sa cohérence intérieure grâce à un mécanisme d'homéostasie, donc de forte résistance au changement, et d'autre part assure sa survivance et sa continuité en recevant un flux nourricier constant de son environnement, typiquement l'entreprise. Par flux nourricier constant, j'entends des moyens matériels, mais aussi intellectuels, de la formation, un cadre réglementaire, des objectifs, des valeurs, etc. C'est un mécanisme de déséquilibre compensé. L'équipe ne peut être comprise sans inclure son environnement. On parle alors de métasystème ou même d'écosystème, du grec ancien oikos, qui veut dire la maison, ce qui n'est pas sans rappeler la House of Lean pour ceux qui connaissent. Mais l'équipe dépasse le champ de la cybernétique. Elle est bien plus qu'une simple machine autorégulée. Elle est vivante. Elle a donc la capacité d'agir en retour sur son environnement, ce qui lui confère un rôle éco-organisateur. Elle contribue par mimétisme à diffuser les bonnes pratiques dans l'entreprise et faciliter l'adoption globale de l'agilité. Enfin, parce que l'équipe est intrinsèquement agile, elle est auto-organisée pour produire une forme de contre-entropie, vous savez, le chaos organisateur. C'est particulièrement flagrant dans les jeux de type système complexe, lorsqu'on demande au groupe de se réorganiser de façon autonome selon des critères plus ou moins précis. Ouais, je sais, c'est compliqué cette histoire-là de chaos organisateur. Comment vous l'exprimez en des termes que vous compreniez ? Le Scrum Master, eh bien c'est un peu le Laurent Voulzy de l'équipe.
J'ai quitté mon maillot de corps, qu'on voit mon corps. Écoute un peu la la.
Au final, la pensée complexe réhabilite un flou permanent et assumé. L'équipe ne se dirige pas, elle se facilite en temps réel, en faisant de son entropie le kérosène de sa réussite, en manipulant des grandeurs non quantifiables, comme la créativité, la liberté. D'ailleurs, ce n'est pas un hasard si le flux de valeurs produites se mesure en points de complexité. Vous dormez ou non ? En points de complexité. Qu'allons-nous pouvoir livrer à la fin du sprint ? Quel incrément de valeur notre client peut-il espérer ? Il n'y a qu'une façon de le savoir. Et cette façon, c'est d'estimer. Vous allez tour à tour estimer. Vous avez le droit de chanter, hein. Les stories que je vous ai données. Je n'ai pas à demander pourquoi. C'est un choix d'estimer. Inutile de chercher à compter. Tout est en point de complexité. Vous avez le droit de vous tromper. C'est pas gravé. L'avenir, malgré nous, doit toujours devenir tous nos désirs d'un code réalisé, optimisé et réalisé. Dans un sprint, aucun jour n'est pareil, tu t'ennuies, tu attends la démo passionnément, éperdument. J'ai inversé les mots. Je trouve fatigué là quand même. C'est la digestion, non ? Il va falloir faire mieux hein, pour la suite. trouvez ça drôle ? Pourtant, c'est chose sérieuse que le travail, non ? La preuve, c'est même mortel. Eh oui, le travail tue. C'est ce que les Japonais appellent le karoshi. Littéralement, la mort par surtravail. Pour expliquer le décès d'employés suite à un excès d'une charge de travail trop importante ou un excès de stress. C'est un phénomène sous-évalué parce que largement sous-étudié, mais qui pourrait expliquer des dizaines de milliers d'accidents chaque année. Eh oui, bien travailler, c'est une question de vie ou de mort. Alors je vous propose de mettre à profit la richesse de la pensée complexe pour transformer vos entreprises. Par exemple, en mettant en place une gouvernance basée sur la holacratie. Holos en grec, c'est le tout. Et la partie du tout en même temps, parce qu'on est toujours dans l'hologramme. Kratos, c'est le pouvoir. L'organisation est divisée en cercles imbriqués et auto-organisés. La gouvernance repose totalement sur l'égrégore collectif. Et vous pouvez démarrer demain. Il suffit de signer une constitution qui explicite la raison d'être du groupe, les cercles, les rôles et les contrats, on appelle ça des redevabilités qui les lient. C'est tout. Alors n'attendons pas. Mettons notre entropie au service de la conscience. Un mot d'ordre, soyons beaux. L'agilité, c'est quoi déjà ? De belles choses faites par de belles personnes. Juste de vous à moi. Le truc de Laurent Voulzy, là, tout à l'heure, vous n'avez rien compris du tout. Non. Je m'en doutais. Alors, surtout, vous bougez pas, je vous explique. Mais par contre, je compte sur vous. Alors, debout. Là, c'est à vous, hein.
On a tous dans le cœur une pause repas oubliée, une réunion qui s'étale à la sortie du lycée.
Allez !
On a tous dans le cœur un vieux bout de changeur usé, un consultant qui rêve de faire le cirque au passé. Et la petite fille chantait.
Oh !
Et la petite fille chantait. Un truc qui me colle encore au cœur et au corps. Il fait ses meetings debout, c'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi ça veut dire beaucoup. Ça veut dire qu'il est agile, heureux d'être lean malgré tout. Il fait ses meetings debout, quand les IT sont à genoux, et les petits chefs au garde à vous, simplement sur ses deux pieds. Et tout ça timeboxé, vous comprenez.
Je vous entends vraiment pas un con, hein.
On a tous dans le cœur le ticket pour la rétro, sortie sprint hélicoptère pour échapper au PO. Excuse me sir, mais j'entends plus télégramme qui bip. Definition of done, c'est la folie dans l'équipe. Et le grand Jacques chantait. Et le grand Jacques chantait. Un truc qui me colle encore au cœur et au corps. C'était la fille du Scrum Master, j'étais le fils du père Foura. Elle s'appelait Marie Docker, je m'appelais Jean Big Data. À quoi ça va me servir d'apprendre des jeux créatifs ? Est-ce que ma vie sera mieux une fois que j'aurai ma certif ? Betty a rigolé devant ma tour en Lego. J'ai dit si ça te plaît pas, t'as qu'à te plaindre au dirlo. Et je me suis fait virer. Jean-Jacques Goldman chantait. Un truc qui me colle encore au cœur et au corps. Elle a peur programmée toute seule. Elle a peur programmée toute seule. C'était dans ces années un peu folles où le Java n'était plus à la mode. mais la paire programmée toute seule. Et elle code toute la journée, elle code de décembre en été. De la souris à son bel éditeur, des paquets de push au petit cron de 4 heures. Et elle troll, 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 même au petit déjeuner. Au café de la Sam, c'est à vue, la bande à Fredo, ça frime pas mal, ça roule au pont du bateau. Le pauvre Arnaud s'est fait piquer chez le libraire, c'est dingue, avec le Claude Aubry caché sous ses fringues. Et les footbeats chantaient plus fort. Et les footbeats chantaient un truc qui me colle encore au cœur et au corps. Youhou! Le post-it c'est fantastique, le show doudou super doux. Nous l'affirmons sans complexe, nous sommes adeptes d'Agilex. Le post-it c'est fantastique, le show doudou super doux. C'est une question de réflexe, nous sommes adeptes d'Agilex. Le post-it c'est fantastique, le post-it c'est fantastique, le post-it c'est fantastique. Vous pouvez faire mieux encore. Le post-it c'est fantastique. Merci beaucoup.